Les livres. Sélection de Radio Silence. Ici, Périnée de Clé. En ce temps de la Chandeleur et de ses crêpes savoureuses, à tous, présents et à venir, qui voulaient bien nous écouter, salut. La ferveur qui entoure, si légitimement d'ailleurs, la commémoration de la naissance de Sainte Jeanne d'Arc, la jeune fille merveilleuse, l'héroïne nationale, née le jour des rois, de l'an 1412, ne doit pas laisser dans l'ombre la naissance un siècle auparavant du pape Urbain V, du bienheureux pape Urbain V. Et alors que justement est paru récemment un travail que l'on pourrait dire exhaustif sur ce pontife. Il s'agit, le titre, Urbain V, le bienheureux, par Yves Chiron, maître reconnu en histoire de l'Église, Via Romana, éditeur. L'on doit noter tout de suite, et comme on le verra à la fin de cette chronique, que l'intérêt de ce travail ne se limite pas à évoquer, à restituer la personnalité et l'action de ce pontife, mais qu'il doit servir de socle à une réflexion, impartiale, sereine, sur la justification du transfert en Avignon du siège pontifical au XIVe siècle, et, partant, sur ce que doit être le rôle légitime de la papauté. Ceci à la lumière notamment des prétentions théocratiques de papes précédents. L'ouvrage est précédé d'une préface que lui fait l'honneur de lui donner ès qualité l'évêque de Mende, Mgr François Jacolin. Préface d'une qualité remarquable et très éclairante, entre guillemets, c'est l'expression juste. Synthèse concise, mais dense, érudite, d'une grande intelligence historique. Il y est rappelé ainsi combien est sombre la période pendant laquelle règne le bienheureux Urbain V. Le conflit entre le roi de France Philippe IV et l'irascible pape Caetani vient seulement de finir. Ce qui sera la calamiteuse guerre de 100 ans, avec son cortège de souffrances et d'horreurs, est commencé, rôde ainsi les écorcheurs, tout un programme, et les soudards des grandes compagnies qui pillent, tuent et violent, tandis que l'apocalyptique peste bubonique, la peste noire, fait mourir plus du tiers de la population d'Europe, peut-être une petite moitié. Et qu'au travers de ces épreuves commence la véritable crise de civilisation qui secoue la chrétienté, la société féodale étant gésine des grands états nationaux, de l'émergence d'un capitalisme financier et, espèce de calamité, d'une bourgeoisie d'affaires. Convulsion qui n'empêche pas une vie intellectuelle et artistique intense et extraordinairement brillante, avec Dante, Boccace, Pétrarque notamment. Mais la sombre lumière qui émane de ce siècle reste foncièrement crépusculaire, comme Mgr Jacolin l'écrit magnifiquement, éclairant des désordres graves dans la vie de l'Église, et à Rome même, devenue ingouvernable et proprement invivable. Citation tirée de la préface. Tout ceci sans oublier l'esprit du siècle, pénétrant notamment le haut clergé, le goût du confort et du luxe, la chasse aux bénéfices, devenue la préoccupation majeure de nombreux clercs, sikhs, et la décadence récurrente des ordres religieux qu'il faut sans cesse réformer. À quoi répond, tant il est vrai que les extrêmes s'attirent, la recherche d'une impossible église spirituelle, d'un bon grain sans ivraie dès ici-bas, opposée à l'église qui sera dite plus tard institutionnelle, avec tous les excès à en attendre, qui veut faire l'ange fait la bête, comme chez les frères mineurs franciscains et leur déviance des Fraticelli. Le décor ainsi planté, la vie du bienheureux pontife, qui a vécu 60 ans, se divise en 3 périodes. L'enfance, la formation intellectuelle et religieuse, les années d'enseignement, 1310-1352. Le temps des abbatiats, la dignité d'abbé, et des missions diplomatiques, 1352-1362. Le pontificat, 1362-1370. le pape Urbain est né en 1310 au château de Grisac, dans le Gévaudan, la France profonde, qui n'a pas seulement porté que l'énorme lynx appelé bête du Gévaudan. Un des pays formant la province de Languedoc, né d'une famille grimoire, déjà noble et considérée, et pourvu d'alliances matrimoniales flatteuses. Ce château de Grisac était devenu avec le temps, citation, « ruine et désolation ». Fort heureusement, en 1982, le marquis Renaud de Laubépin, descendant d'un frère du bienheureux pape, le racheta et avec un courage admirable, le releva et littéralement le ressuscita. Une réussite parfaite. Le parrain d'Urbain, Elzéar, de la noble et puissante famille Sabran, est, de son vivant, quasiment un saint. Sous Jean-Paul II, il eût été santo subito. L'enfant étant né contrefait, citation, une masse informe de chair, sic, Elzéar obtient le miracle de sa transformation en un, citation, un bel enfant plein de vie, prophétisant qu'il serait un jour le premier et le plus grand des chrétiens. Sa décision, mûrement réfléchie, d'entrer en religion l'amène comme novice au prieuré Saint-Sauveur, une dépendance de la grande abbaye de Saint-Victor de Marseille. Auparavant, il a fait son trivium, soit la grammaire qui donne la connaissance de la langue, particulièrement du latin, la rhétorique qui apprend à bien s'exprimer par le discours écrit ou oral, et la dialectique qui apprend à bien penser, à user de la raison. Et son quadrivium, arithmétique, géométrie, musique, astronomie. La grammaire est assortie de la lecture des auteurs de l'Antiquité classique, Virgile, Horace et autres, et auteurs latins chrétiens. Trivium et quadrivium, Grimoire les étudie à Toulouse. Puis obtient le grade de bachelier en droit civil, à opposer au droit canon, le droit de l'Église. C'est ensuite, déjà religieux, qu'il obtient, après 10 nouvelles années d'études, le très difficile diplôme de docteur ès decret, c'est-à-dire en droit canon. Ce droit est alors considéré comme la science des sciences, car procédant à la fois de la théologie et du droit civil. C'est à ses études de droit, à cette formation de légiste, c'est ainsi qu'on appelait les juristes en ce temps, par essence si structurante pour l'intellect, qu'il doit sa rigueur de pensée. Sur le bénéfice du droit, dans la formation de la pensée, de l'intelligence, l'on peut citer cet adage « Le maître est art, c'est-à-dire le littéraire, ne sait pas ce qu'il pense, mais sait le dire. Le scientifique sait ce qu'il pense, mais ne sait pas le dire. Seul le juriste sait ce qu'il pense et le sait dire. » Docteur, il enseigne d'abord à Montpellier, que lui fera quitter pour Toulouse et Paris la terrible peste, dont il est si marqué, la fuite seule lui permettant d'exorciser l'hallucination ressentie. C'est ensuite que, nommé abbé de Saint-Germain d'Auxerre, puis de Saint-Victor de Marseille, il remplira à son honneur de très délicates missions diplomatiques en Italie, notamment auprès du redoutable clan prédateur des Visconti de Milan. Ses réussites le feront nommer légat auprès de la reine Jeanne de Naples, dont le pape était le suzerain nominal et qui se trouvait en humeur de remariage pour la troisième fois. C'est à Naples, à l'automne 1362, qu'il a pris son élection au siège de Pierre pour succéder à Innocent VI. Élection apparemment surprenante, s'agissant d'un simple moine qui, même abbé, n'était ni cardinal ni même évêque, mais dont les talents étaient bien connus des membres du conclave. Le nouveau vicaire du Christ avait un programme. Réformer en profondeur les abus dans l'Église, il y avait du travail. Faire régner la paix entre princes chrétiens pour les unir en une croisade contre le péril turc et sauver ainsi l'Empire d'Orient, tout au moins ce qu'il en restait. Prêcher le christianisme jusque dans l'Orient lointain et mystérieux, une manière d'anticipation sur saint François-Xavier. En quelque sorte, les 12 travaux d'Héraclès, ou comme diraient les gens déjà un peu plus barbares d'Hercule, à effectuer en 8 ans. Si les réussites furent inégales, l'on ne peut qu'admirer le zèle, le courage, le talent, l'abnégation déployés par le pape Grimoard qui finit par en mourir. La seule erreur majeure serait dans le retour à Rome au lieu que de rester en Avignon. Comment cet homme, de rigueur et de pondération, selon l'heureuse expression de Mgr Jacolin, a-t-il pu se laisser influencer par les sollicitations indiscrètes et illégitimes de Brigitte Gunmarsen et de la tertiaire de Saint-Dominique, Caterina Benincasa, mystiques exaltées à l'affectivité féminine envahissante, qualifiant le séjour en Avignon de « nouvelle déportation de Babylone ». Rien que ça. Il est en effet attesté qu'après des siècles d'insécurité chronique dans Rome, cloaque putride et immonde, c'est des citations, entre, des citations des contemporains, cloaque putride et immonde, entre d'horreur au pluriel et d'impudicité, sic, Avignon apparaît comme un havre de grâce, où le Saint-Père pouvait vivre et gouverner l'Église dans le calme et la dignité, et ce, après des élections qui ne soient pas entachées d'irrégularités flagrantes, comme étaient si souvent les élections papales, où l'on vit dames et jeunes filles des grandes familles, Colonna, Orsini, Caetani, imposer le candidat de leur choix, parfois leur amant. On rappelle à titre d'illustration que de 1100 à 1304, 2 siècles, les papes ont résidé 122 ans hors de Rome, à Viterbe, Pérouse, Anagni, etc., et seulement 82 ans à Rome. Étant observé que le retour à Rome est suivi presque immédiatement du grand schisme d'Occident, avec 2 puis 3 papes en même temps, ce qui n'a pas manqué de favoriser le temps des hérésies à venir, Wyclef, Jean Hus, Luther, Calvin. L'auteur, par ce livre, accomplit un véritable travail de bénédictin, comme le dit très justement Mgr Jacolin. Dans une tentative de bilan, il se livre au difficile exercice d'une appréciation nuancée. En réalité, cet authentique historien a fait, dans cet excellent ouvrage, la démonstration qu'Urbain V était véritablement un saint, mais aussi un grand pape, un vrai grand pape. Dans une conjoncture particulièrement difficile, taillant sa route sur une mer agitée de vents contraires, il s'est montré, comme déjà dit, homme de pondération et de rigueur, fin, diplomate soucieux au principal d'enseigner les nations, ce que montre sa volonté d'intégration de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'au-delà du Limès, jusqu'à pénétrer en Asie centrale. Sa simplicité, sa sainteté de vie intégrale, sa mansuétude ne l'ont pas empêché d'être ferme, là où il le fallait être, jusqu'à la guerre si nécessaire. La paix, oui, il l'a recherchée, mais pas au préjudice du droit et de la justice. Enseignement à suivre maintenant. Vis-à-vis des pouvoirs temporels, Charles V, Jean II, en France, il s'est toujours montré vraiment libre, d'une dignité authentique. Quant à sa conception du rôle du successeur, du prince des apôtres, on la pourrait dire presque moderne. Manifestement, pour Urbain V, le pouvoir pontifical est avant tout d'essence spirituelle. Il est fort loin des conceptions de pape telles que Grégoire VII, le pape de Canossa, Innocent III, Innocent IV, Caetani, le fameux Boniface VIII, celui de l'affaire d'Anagni, et plus tard Jules II, sous la Renaissance. Ces derniers pontifes adoptant les thèses de Saint Bernard, remettant les deux glaives, le glaive spirituel et le glaive temporel, entre les mains du seul pape, entendant soumettre intégralement ainsi le temporel au spirituel, l'empereur ou roi au pape, soumettre l'empereur ou le roi au pape, avec plein pouvoir pour celui-ci, d'élire et déposer les souverains à son seul gré. Pardon. Conception appliquée par Innocent IV, avec assez d'arrogance pour que Louis IX, oui, le futur Saint-Louis, lui doive écrire Citation. Croyez-vous donc le royaume des lys tomber si bas que vous le puissiez faire aller à coups d'éperon? Thèse de caractère authentiquement théocratique, totalitaire peut-on dire, et en contradiction avec l'enseignement du divin fondateur. Citation. Rendez à César ce qui est à César. Et deuxième citation fondatrice, mon royaume n'est pas de ce monde. Thèse des deux glaives aussi fausse en soi que néfaste dans sa mise en œuvre, comme le montrent les diverses réactions du pouvoir temporel. Obtenir la canonisation du bienheureux Urbain V est un strict devoir de justice. Tout un chacun, en France en particulier, et ne serait-ce que pour rétablir la vérité s'agissant du séjour des papes en Avignon, se doit, pour une somme modique, d'adhérer à l'association des Amis du Bienheureux Pape Urbain V. www, en minuscule, pape-urbain-5.org. Présidente Claire de Gatelier. L'on n'y retrouve que gens de cœur et d'esprit et de bonne compagnie. Merci de nous avoir écoutés. À une prochaine fois, et que dans ces temps de tribulation électoraliste, nous garde particulièrement la Très Sainte Vierge, à qui, avec ferveur, nous confions la canonisation effective de ce valeureux vicaire de son divin Fils, et hec ad majorem Dei gloriam.